Tu connais la réponse. La question, c'est la première condition d'acceptation des œuvres, c'est l'islam. Et celui qui ne fait pas la prière, est-ce que il est musulman? La réponse est connue. Nous dirons que ce que les savants disent, à l'unanimité, celui qui ne fait pas la prière, qui dit que ce n'est pas une obligation, n'est pas musulman. Là, les savants ne divergent pas dessus. Celui qui reconnaît sa perversité en ne faisant pas la prière, qu'Allah lui facilite, il doit revenir vers Allah repentant, il mérite la colère d'Allah, il mérite l'humiliation dans ce bas monde avant l'au-delà. Mais il se peut que la prière, Allah lui fasse un cadeau et qu'il la fasse avant de mourir. Et si ce n'est pas le cas, il mérite la colère d'Allah, il risque l'enfer, mais il en sortira si il a sincèrement attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'avis de la majorité des écoles, 3 sur 4, et c'est l'avis de la majorité des savants, et c'est probablement l'avis juste. Il y a un groupe de savants et une école qui dit que celui qui ne fait pas la prière, celui-là, ils ont des arguments aussi, c'est qu'il n'est pas musulman. Auquel cas, il ne sortira pas de l'enfer. Il ne sortira pas de l'enfer. Et on a un certain nombre de gens. Moi, je suis de l'avis que, comme si tu devais avoir un avis, et surtout, tu envoies les gens en enfer, et que c'est pas la peine qu'ils fassent le jeûne, c'est pas la peine qu'ils fassent ceci et cela, parce que Allah n'accepte pas. Ça, celui qui le dit, pour moi, il prend un risque énorme. Les savants ont divergé dessus. On n'a pas à dire ça, c'est comme si, c'est si. Tout ce que tu peux dire, c'est ce qu'on vient de dire, à savoir qu'il y a deux avis. L'avis le plus fort chez les savants, je vous renvoie notamment le statut de l'abandon de la prière de Cheikh Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ce n'est qu'un nain sur les épaules de géants, que sont les compagnons du prophète sallam, et les savants qui les ont suivis après. Les arguments sont là. Ne dis pas à quelqu'un, toi, c'est pas la peine que tu jeûnes, parce que c'est bientôt le Ramadan. Il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, on dit qu'il y en a 70% en France, des musulmans qui ne font pas la prière, qui disent faire le jeûne. Donc, prions Allah subhanahu wa ta'ala, combien de gens sont rentrés dans l'islam où on fait la prière à partir du Ramadan. Il y en a eu beaucoup. Je vous ai raconté, parce qu'on m'a raconté l'année dernière, il y a quelqu'un qui, chaque fois, on le disait, viens, un voisin, on le disait, viens, on va à la mosquée, oui, Inch'Allah, prie pour moi, prie pour moi. Le Ramadan dernier, il a commencé à venir à la prière, Taraweh. Ensuite, il faisait ses prières. Le Ramadan est terminé, il continuait ses prières, et il est rentré. Il a réveillé sa femme pour faire sa prière, et il ne s'est pas réveillé. Qui aurait pensé qu'il allait mourir avec la prière? Allah l'a guidé vers ça et il est mort avec la prière. Il se peut que Allah l'a purifié et lui a pardonné. Parce qu'il n'y a pas de péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui vient repentant avec les conditions que vous connaissez. Donc dire celui-là, c'est même pas la peine de jeûner, ne le dis pas. Ne le dis pas. Dis simplement que la prière, celui pour qui tu jeûnes et qu'Allah accepte ton jeûne, c'est celui qui te demande pour te pardonner, qui t'invite 5 fois par jour au moins. Pour te bénir, pour t'enlever des péchés, etc. Et c'est le pilier, c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Si la prière est bonne, Allah accepte tout. Et donc, si tu veux augmenter tes chances, fais tes prières. Et demande pour toi et demande pour les autres. Donc, on ne se mette pas, nous, à juger les uns les autres. Et Alhamdulillah, où est-ce qu'on était? Combien d'entre nous ne priaient pas? Je ne vais pas dire lever les mains. Combien d'entre nous ne priaient pas? Et Allah seul le sait. Maintenant qu'on prie, on sort tout le monde de l'islam. Non, on n'a pas le droit. On n'est pas savant et on prend un risque énorme. Si les savants qui disent qu'ils ne sont pas musulmans, ils ont dit cela, ils ont des arguments. Nous, on n'en a pas. On ne suit que nos passions. Qu'Allah leur fasse miséricorde, s'ils se trompent, ils auront au moins une récompense. Nous, on ne l'aura pas, cette récompense. C'est plutôt par haine. Comme on est là, on pense, comme je le dis souvent, que le paradis c'est un T4, il n'est pas mal d'ailleurs, un T4 de Bellefontaine. Alors si tout le monde rentre, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la prière, donc je prends leur place en fait au paradis. Non, chacun a sa place. Prie pour les gens, plutôt que de les maudire ou je ne sais quoi d'autre. Allahu alam, alam. Non, fadin. Le frère pose la question de savoir à quelqu'un qui s'est imposé du dhikr, par exemple, et finalement qui n'allait qu'à cela, entre les quatre, et qui parfois ça arrive machinalement à le faire, est-ce que c'est un manque de sincérité? Non, c'est pas un manque de sincérité, le problème c'est que c'est un manque de vigilance, et moi je te répondrai, c'est que le professeur m'a dit par rapport au meilleur des dhikr, qui est la prière. L'homme n'aura de sa prière que la moitié, le tiers, comme tu sais, jusqu'au dixième. Donc si on le fait machinalement, on le fait pour Allah. Et que Allah, dans sa miséricorde, fait qu'en le faisant, on aura dans cette part la partie où on est conscient. Et si on le fait comme ça, je veux dire, comme les gens ils sont en train d'acheter, je les ai vus à Saint-Sernin, ils sont en train d'acheter, ils ont en même temps un chapelet, et ils parlent et ils rigolent et en train de dégrainer. Qu'est-ce que tu égrènes quoi? Certainement, c'est le kiné qui t'a dit de faire des mouvements comme ça. Ils sont pas présents, subhanallah. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. Et qu'Allah bénisse, et en Italie, par rapport donc à la question que tu as posée, il y a un point que je voulais soulever et que Shaitan m'a fait oublier. Alhamdoulilah, ça viendra. Entre-temps, peut-être qu'une demande de doha donc pour un papa qui est rentré à l'hôpital pour un problème de cœur, les médecins disent qu'il ne va pas passer la journée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le meilleur. Donc, qu'Allah le purifie dans tous les cas.
Par rapport à la question qu'il a posée le frère, est-ce que c'est à lui de pas oublier que tu as une heure précise régulièrement?
On en a parlé hier, non, justement. Le dhikr, si on parle de dhikr en général, ce qui est légiféré, c'est le fait de le faire, les prières par exemple, à des heures bien précises. Après les prières, ce que le prophète a dit, c'est que le fait de s'imposer après la prière, par exemple, de rester jusqu'au lever du soleil ou d'autres, ça c'est le wird, ça on peut le faire. Mais à dire à midi, c'est la question qui a été posée hier, à midi, entre midi et midi et demi, je vais faire ceci et cela, on ne peut pas se l'imposer. Par contre, on peut se l'imposer sur une durée qui est tous les jours. Je m'impose de demander pardon à Allah 100 fois par jour parce que c'est vraiment le minimum. Le prophète sallam le faisait et pourtant Allah lui a pardonné. Mais de dire entre midi et midi 5, tous les mercredis matin, tous les mercredis, tous les mercredis je vais le faire, non. Ça c'est s'imposer des choses qu'Allah t'a pas imposées. Mais par contre, connaissant ton âme, en disant que moi, je dors trop, et je m'impose de lire ou de faire du dhikr, et même quand tu ne peux pas, ou que tu as oublié, ou autre chose, à ce moment, le faire, même le lendemain, te l'imposer, ça c'est une bonne école d'éducation spirituelle. Le prophète sallam, quand il était malade, ou qu'il a été empêché de faire ce qui s'était imposé, le faisait en rattrapage, entre guillemets. Mais pas je rattrape la prière, hein, qu'on soit clair. La prière, on ne rattrape pas. C'est une dette vis-à-vis d'Allah, on l'a négligée, mais c'est parce qu'Allah n'accepte pas. La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Si tu dors, si tu étais contraint, et je ne sais pas par quelle contrainte, hein, tu as oublié surtout, le professeur m'a dit, c'est qui a oublié ou qui dort, l'heure de la prière, c'est au moment où il s'en souvient, ou au moment où il se réveille. Là, tu n'es pas en train de l'attraper. Mais dire, je rattrape la prière comme on le fait souvent, ça, ce n'est pas quelque chose de légiféré. On va partir avec les sœurs. Est-ce que dans la formulation de l'intention, il faut se dire je le fais pour plaire à Allah ou bien je le fais pour moi, pour me sauver du châtiment d'Allah? La nuance est d'introduire le pour moi, car Allah se passe de tout. Non, Barakallah, en fait, c'est un aspect que Shaitan m'a fait oublier. C'est un droit d'Allah. L'intention n'est pas à formuler. L'intention est dans le cœur. On n'a pas à la formuler, sauf dans le Hajj. Labbaik Allahumma labbaik. Le Omara ou le Hajj. Sinon, l'intention, Allah le sait avant d'avoir créé, tu n'as pas à dire je le fais ça pour moi, pour ceci. C'est ça, il rentre de là. Et d'ailleurs, les frères et certaines sœurs, quand on est voisin, tu entends Allah, il y a une salat al-dohr, yom, je sais pas, yom, il y a une al-ahad, il y a une arba rakat, Allah akbar. Donc, je vais faire la prière du dohr qui a 4 rakats. Tu n'as qu'à regarder l'heure d'ailleurs, 13h11. Tant qu'à faire, non, ça, Shaitan, il rentre dedans. Et en fait, tu es en train de faire l'asan. Non, ça, il n'y a pas à formuler. Alhamdulillah, tu sais que c'est pour Allah que tu le fais. Si c'est pas pour Allah également, tu le sais. Tu sais que tu ne le faisais pas et que maintenant que le mari est rentré, ou le père est rentré, tu te lèves pour faire les ablutions. Tu sais très bien que c'est pas pour Allah que tu fais la prière. Ça, tu le sais. T'as pas besoin de, Allah le sait bien sûr plus que toi. Mais donc, ce n'est pas, il ne faut pas gâcher ce trésor, qui est l'intention pure, il ne faut pas le gâcher en essayant de la formuler, de la théoriser, de la philosopher. Non. On demande à Allah de nous purifier le cœur et on le fait sans le formuler, pour quoi que ce soit. Je te donne, ne dis pas, innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Voilà. Tiens, j'ai 10 euros. Moi, je te donne, c'est pas parce que je veux pas que tu me remercies. Et puis ça, c'est la zakat, quoi. Ça devient du man. Et Allah n'accepte pas le man. C'est le fait de reprocher aux gens. Je t'ai donné ça. Et comme on le fait souvent. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que je t'ai pas fait ça? Est-ce que je t'ai pas donné ça? Et puis moi, je te demande juste ça et tu refuses. Voilà. Et Allah, qu'est-ce qu'il t'a pas donné? Ce que tu n'as pas demandé, il t'a donné. Plus ce que tu as demandé, qui est dans ton bien. Et si Allah te disait, est-ce que, où tu serais? Non, c'est dans le cœur, alhamdulillah, qu'Allah te purifie le cœur. On n'a pas, on tombe dans ce que Shaitan nous amène pour justement annuler la cause, ou en tout cas la diminuer. Ne le fais pas. Lorsqu'on effectue la prière et que durant cette dernière, on a des doutes sur la bonne exécution de cette dernière, la prière est-elle acceptée? Accepter, Allah seul sait. On ne peut pas dire ça. On peut dire que est-ce que la prière est valable? On reste toujours sur les aspects administratifs. Est-ce que j'ai les ablutions? Est-ce qu'il y a la pureté du lieu, du corps et les habits? Est-ce que j'ai fait le takbirat al-ihram, qui est le premier takbir, jusqu'au salam? Quels sont les 12 ou 13 piliers que les savants ont définis? Est-ce que je les ai faits? Et les ai faites, je les ai faites. Si c'est le cas, la prière est valable. Est-ce qu'elle est acceptée? Et Allah dit, Allah n'accepte que des pieux. Personne ne peut te dire ta prière est acceptée. Non. Celui qui dit ça, il s'est mis à la place d'Allah. On se pose souvent la question, est-ce qu'elle est acceptée? Mais comment tu veux que je te dise ça? La mienne même, je ne sais pas. Comment la tienne, je peux dire qu'elle est acceptée? Pour qui tu l'as fait? Dans ton cœur, est-ce que tu étais présent? Et Allah, il n'a besoin de rien, c'est ce qu'il faut voir, c'est pour ça qu'il faut soigner. Et comme le dit l'autre, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous on donne à Allah le reste. Quand toi, on te donne le cadeau, tu vas l'embellir, et dedans, on va te mettre ce que tu aimes, la surprise. Et bien sûr, tu vas pas surprendre Allah, mais tu vas le soigner. Tu vas amener un cadeau à celle que tu veux épouser. Et tu as déjà demandé à ses amis, à sa famille, qu'est-ce qu'elle aimerait, et machin, et ceci, et tu as le soigné, et tu as multiplié par 10. Voilà, c'est ça que, alhamdulillah, Allah m'a ramené l'idée, c'est le fait que la bonne intention, wallahi, tu atteins des degrés énormes avec la bonne intention. Shaitan me l'a fait oublier. Le professeur Salam, il a dit, il y a des gens qui sont à Médine, et qui ont la même récompense que vous quand ils partaient à Tabouk. Ils ont les mêmes récompenses que vous alors qu'ils sont à Médine. Ils disent comment ça? Vous ne montez pas un mont, vous ne descendez pas dans une vallée sans qu'ils aient la même récompense. Il dit pourquoi? Il dit parce que ils ont été empêchés. L'intention est d'y aller. Subhanallah wa bihamdihi. Il a dit dans un autre hadith, fadda, il y a des catégories de gens. Quelqu'un que Allah a éprouvé par la science et qui l'enseigne et qui juge les gens avec. Et toi qui le vois, tu dis, si j'avais sa science, j'aurais fait pareil. Allah t'inscrit la même chose. Subhanallah wa bihamdi. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un cœur, quoi? Est-ce qu'on se veut soi-même du bien? Et regarde ce montre-là. Et regarde celui-là. Quel est ton problème? Tu es dans son cœur et tu perds l'occasion d'avoir ses bonnes actions et tu lui donnes tes bonnes actions. Aime le bien pour les autres et tu auras la même récompense. Il dit que quelqu'un que Allah a favorisé et éprouvé par le bien et qui dépense dans ce que Allah aime, tu te dis, Allah, si j'avais la même chose que lui, j'aurais fait pareil. Et Allah te donne la même récompense. Subhanallah wa bihamdihi. Qu'est-ce qu'on est pauvre? Qu'est-ce qu'on est pauvre? Et on le restera. Dans le mauvais sens du terme, quoi. Qu'est-ce qu'on est pauvre? La pauvreté, ce n'est pas d'être dénué. C'est la pauvreté du cœur. Qu'est-ce qu'on est pauvre? Tu perds l'occasion, tu vois quelqu'un, prie pour lui. Il est en train de penser, pourquoi tu vas le juger? Il fait ça pour qu'on le voit. Tu peux témoigner ça. Tu es dans son cœur pour dire qu'il fait ça pour ceci et cela. Et il y a quelqu'un, et ça c'est parmi nous, qui n'a pas de science. Et il n'a pas d'argent. Et il voit quelqu'un de science, quelqu'un en train de penser dans n'importe quoi. Il dit, si j'étais... C'est normal, hein? Il, c'est normal. Si j'avais la même chose que lui, j'aurais fait pareil. Non seulement il ne l'a pas, mais en plus il a les mêmes péchés. Il a les mêmes péchés. Tu envies les stars, les machins, les ceci, tu as les mêmes péchés. Non seulement tu ne gagnes pas ce que Mbappé gagne, tu ne me dis, subhanallah, et tu as les mêmes péchés. Ah, t'as pas vu les stars, et qu'est-ce qu'ils sont, et c'est pour même pas Nice, hein, c'est tout ça. Si tu connais, tu vas pas faire semblant. Là où ils descendent les marches, là, c'est où?
Cannes.
Ah, Cannes, voilà. C'est Cannes, oui, bien sûr. Ah, voilà, toi tu perds ton temps, tu es assis, ou alors sur tes séries de télé. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Ah, oula, voilà, quoi tu as vu. Allah madina, Allah, Allah madina. Tu prends des péchés, lui au moins, mais ça ne servira pas à grand-chose. Il a des centaines et des centaines de milliers d'euros qui ne serviront pas à grand-chose. Mais toi, tu n'as même pas ça. Et tu es ainsi en train de saliver. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Et qu'est-ce que c'est ceci? Tu as les mêmes péchés, mon Abdoubillah. Et ça, c'est, alhamdoulilah, grâce à Allah, j'avais oublié ce point que je voulais souligner, c'est que tu peux ramasser beaucoup. Tu peux ramasser énormément de bonnes actions comme des péchés en fonction de ton intention. Tu veux faire du bien? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu que tu fasses du bien. Tu veux le faire? Tu veux le faire. Tu n'y arrives pas? Allah te donne la récompense entière. Parce que tu dis, Allah, j'ai envie de faire ça. Une sœur qui m'a laissé un message aujourd'hui, qui j'ai demandé à Allah que je ne meure pas avant de connaître le Coran par cœur. J'espère qu'elle s'y est mise. Et sinon, elle va mourir avant. Mais l'intention est là, tu ouvres le livre, tu veux l'apprendre, et alhamdoulilah, tu es comme moi, ta mémoire est défaillante, Allah te l'inscrit comme si tu l'as pris. Subhanallah wa bihamdi. Allah et qu'Allah nous pardonne. On passe à côté de l'essentiel. Et juste la bonne intention. De le faire pour Allah, moi je veux. Et si effectivement tu veux, tu vas prendre les moyens de le faire. Mais tu ne le feras que si Allah le veut. Non seulement tu n'y arrives pas, mais en plus tu as la récompense. Et si tu arrives grâce à Allah, Allah te multiplie ça de 10 à 700 fois. Qu'est-ce qu'il en est celui qui veut faire pour Allah et qui décide de sélectionner ce pour qui il le fait? Il se peut, le frère demande, il veut aider, la priorité va aux gens de la famille. Le prophète m'a dit, Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, sa femme est venue voir le prophète sallam. Et Bilal est venu voir, c'est la femme d'Abdallah, le prophète, qui vient demander, est-ce qu'on peut faire une saraka pour son mari? On peut donner une saraka à son mari. Alhamdulillah. Donc on va dire aux sœurs de faire la saraka pour leurs époux. Et il a dit, le prophète sallam, qu'une saraka est une saraka. Une saraka faite à un proche est doublement récompensée. Donc c'est avant tout, Allah vous a lié, tu le fais. On dit qu'il y a trois catégories. Tu as le musulman, tu as le voisin musulman et tu as le frère et voisin musulman. Celui qui est frère et voisin musulman a trois droits sur toi. Celui qui est musulman et voisin, il a deux droits sur toi. Et celui qui est musulman, il a un droit sur toi. Par contre, si tu le fais pour autre qu'un musulman, tu es quand même récompensé, a dit le prophète sallam. Donc on passe à côté, un non-musulman, il se peut que, tu sais, certainement le prophète sallam, il sortait, et pourtant il y avait un non-musulman qui lui mettait des épines devant sa porte, pour qu'il se pique, le matin quand il va à la Kaaba. Et quand il a vu qu'il n'y avait pas, quand il a vu, il a remarqué qu'il n'y avait pas d'épines, il s'est dit, soit il est mort, soit il est malade. Donc ça c'est le prophète sallam. Nous on dit, alhamdoulilah, il est mort. La terre, Allah nous a débarrassé de ça. Il a été, et l'homme a été effectivement sur son lit de mort. Il a demandé à son fils de devenir musulman. Et il est devenu. Donc, on est un ambassadeur. Et si on est musulman, ça se voit, tant mieux. Surtout nos sœurs. Ça se voit. On se doit d'être, de mériter cet honneur qu'Allah nous donne. Donc d'être un exemple. Il est fa'abilatihi ahsan. Même si on nous fait du mal, Allah nous dit dans la sourate 41, de faire le bien pour le mal qu'on nous fait. Mais ça c'est, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Il n'y a que les patients. Et ceux à qui Allah a donné, il y a une foi énorme qui peuvent le faire. Mais il ne faut pas refuser d'aider un homme musulman. On a demandé au Prophète sallam, si je donne du bien, même à un animal, il dit, tout ce qui est vivant est une sadaqa. Tout bien que tu fais à quelque chose qui a une vie, c'est une sadaqa. La femme qui était prostituée, et Allah l'a éprouvée, et elle s'est retrouvée dans le plein désert, et elle avait soif. Et Allah, le miséricordieux, a mis sur sa route un puits. Et il n'y avait pas le robinet, et il n'y avait pas la pompe. Et elle est descendue à la force de ses bras pour boire. Et en ressortant, Allah l'éprouve. Elle voit une chienne ou un chien avec la langue qui traîne par terre. Elle s'est dit, elle aurait pu se dire, t'as qu'à te débrouiller, hein. Moi j'ai bu. Elle s'est dit, cette chienne doit avoir la même souffrance que moi. Il y a quelque temps, elle descend par la force de ses bras et elle prend sa chaussure et remplit. Elle ne peut pas en même temps la chaussure et en même temps monter. Elle remplit sa chaussure d'eau qu'elle met entre ses dents et à la force de ses bras elle monte et donne la chienne à boire. Elle descend autant de fois jusqu'à ce que la chienne soit désaltérée et à cause de ça, Allah lui a pardonné. Voilà. Donc que dire alors d'un être humain? D'un être humain. Celui qui sauve une vie, il n'a pas sauvé la vie d'un croyant. Celui qui sauve une vie, c'est comme il avait sauvé l'humanité entière. Quand on le fait pour Allah. On ne dit pas, ben, écoute, hein, tu vois, moi je suis musulman. Tu n'as pas demandé au nom musulman. Non, il le voit. Allah t'a mis sur sa route et tu seras interrogé. Tu connais le hadith certainement où Allah, le prophète nous dit, Allah dit, oh un tel, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. L'homme dira, Allah, toi qui es le Seigneur du monde, comment est-ce que tu peux tomber malade? Il dit, mon serviteur, un tel était malade, tu ne l'as pas visité. Si tu m'avais visité, tu m'aurais trouvé. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé à côté de lui. Oh, mon serviteur, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, tu ne m'as pas nourri, etc., etc. Donc non, si quelqu'un vient devant toi, et tu le sais certainement, Allah a mis, il a éprouvé les gens, et des gens se sont retrouvés, des anges, pour tenter les gens. Et il y a beaucoup d'exemples. Tu vois quelqu'un qui a un besoin, et puis tu peux le faire, et tu passes à côté. Ne pense pas qu'Allah ne te voit pas, bien sûr, tu sais qu'Allah te voit, et il n'a qu'à se débrouiller. Si Allah te voulait, tu seras à sa place. Et en fait, après, l'histoire nous rappelle, nous montre que c'était un ange. Non, moi je suis un ange que Allah a envoyé pour t'éprouver. Bien sûr, on va pas voir les anges partout, même s'il y en a partout. On va pas les voir partout. Mais, il y a péché de non-assistance à personne en danger. Dans l'islam, ça existe. Péché de non-assistance à personne en danger. Tu es passé à côté de quelqu'un qui a bien besoin de toi. Et tu es passé, tu as fermé les yeux ou tu as détourné ton regard. Devant Allah, tu seras responsable d'avoir pas aidé. Je ne dis pas quelqu'un qui l'aidait pour l'aider. Mais s'il y a un besoin, tu dois y contribuer. Parce que il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas passé par là par hasard. Non. Je suis passé, il y avait de la lumière par hasard. Non. Si tu es passé, c'est que tu dois passer par là. Et Allah a voulu, sur ta route, mettre quelqu'un d'éprouvé. Ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une question. Non, bon. L'orgueil, c'est pas ce qui manque. Non, j'ai besoin de rien. Même dans le bus, une femme, elle a une femme ou un homme, et il sait même pas se tenir. Tu te lèves, tu lui dis, prenez la place. Ah non, je suis pas vieux. C'est ton problème. Mais au moins, toi, tu as la bonne action. Il dit, non, je suis pas vieux, moi. Moi, je t'ai pas dit que tu es vieux. Moi, je t'offre ma place.
C'est de la fierté.
Et voilà, c'est de la fierté ou de l'orgueil, j'en sais rien. Mais au moins, toi, tu as fait. Et tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, on t'a envoyé promener. Et la quatrième fois, c'est peut-être la bonne.
Oui, mais des fois, il y a un
autre,
quatre,
même. Mais justement, Shaitan, il te dit, non, mais tu as bien fait, Allah le sait. On dit que le prophète, sallam, c'est la 15e fois qu'il a rencontré les Aws et les Khazraj, plutôt les Khazraj. Il y en a pour aller à Médine après. Il s'est réalisé la 14e fois, on ne serait pas là aujourd'hui. Chaque fois, l'intention, chaque fois que tu vas essayer, chaque fois, Allah va te remercier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. J'ai déjà essayé, c'est du bien, bien sûr. J'ai essayé. Je n'ai pas réussi, alhamdulillah. Tu as réussi en fait. Allah n'a pas voulu pour ton bien. Et quand Allah ne te donne pas, quand tu implores, entre autres parmi les 15 ou 30 sagesses que les savants ils ont trouvées, c'est le fait que Allah aime encore t'entendre demander. Et donc tu as un besoin, tu demandes à Allah, c'est pas parce qu'il n'a pas répondu, c'est toi qui as été impatient. Tu le fais, ça marche pas, c'est que c'est du bien pour toi. Et tu le refais, et tu refais ton plan, jusqu'à ce que, et tu seras récompensé, tu seras étonné. Donc quand on peut aider, il faut aider. Ça c'était une question qui n'était pas prévue. Donc quand tu as des doutes sur la bonne exécution de cette prière, tu demandes pardon à Allah, et on dit, barakallahu fik, que c'est l'une des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit assalamu alaykum, wa rahmatullah, assalamu alaykum, wa rahmatullah, qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qu'il dit? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demande pardon à Allah pour l'imperfection qui a pu se glisser, et c'est certainement, on a de la prière que la moitié, au mieux. Donc, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, si tu as des doutes, c'est connu, si le nombre de raka et combien ça te vient, si c'est les waswas, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est alhamdulillah, les savants du fiqh, les fuqaha, ils ont défini les différentes conditions du doute, mais ne pense pas que tu vas pas avoir de doute. Est-ce que c'est accepté? Allah sait qu'il t'a créé faible et que tu as fait tes efforts sincèrement pour ne pas avoir de doute. Tu en as eu, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas que ta prière est acceptée. Et c'était la question, en fait, le sens de la question. On dit, on va pas dire la prière est acceptée. Allah seul sait. Est-il hypocrite de prier lorsqu'on est éprouvé? La prière est valable lorsqu'on demande à Allah de nous aider. La prière est valable. On doit se sentir hypocrite. On dit qu'on a rencontré 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pensait qu'il avait la foi de Omar et tous craignaient d'être hypocrites. Bien sûr, quand est malfrôle l'être humain, le fils d'Adam, il est très sincère. Mais il se peut que, alhamdoulilah, cette sincérité à ce moment-là t'amène à continuer. Mais une fois que tu as la chose, terminé, tu oublies. Tu oublies ou tu négliges. Là, ça ne va pas. Toi-même, tu te poses la question. Mais la prière, Allah répond. Allah t'a éprouvé justement pour que tu reviennes vers lui, pour ton bien. Donc, demande. Même si tu ne faisais pas la prière, commence. Et si tu ne demandais pas, demande. Tu es dans le besoin et tu sais que celui qui est le seul qui peut te sortir de là, c'est Allah. Donc, tu crois en Allah. Et en profitant, tu es sincère à ce moment-là. Celui qui répond à l'angoissé, sur la terre comme sur la mer, comme dans les airs. Donc à ce moment-là, tu dois demander à Allah. Et tu, pour une fois que tu es sincère, demande à Allah et ne demande pas que de permis. On ne demande pas que ton mari ne te divorce pas. On ne demande pas que l'enfant. Il y a bien mieux que ça. C'est l'agrément d'Allah. C'est son adoration. L'adoration est une jouissance, c'est un plaisir pour les gens qui connaissent Allah. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ça a un goût. Ibn Qayyim, on lui a fait écrire, on lui a attribué les choses qu'on appelle la saveur de la prière. C'est pas lui qui l'a écrit. Mais ils ont pris des parties de ce qu'il a, de ce qu'Allah lui a inspiré dans différents livres, ils ont appelé la saveur de la prière. Et c'est pas le plus pieux d'entre eux. L'adoration est-il du plaisir? Il doit être du plaisir. Parce que Allah, ce n'est pas une punition que d'aller prier. Allez, lève-toi, si tu continues, tu vas prier. Non. Il faudrait que ce soit un manque. Il faudrait que ce soit un manque. Le prophète priait au point que ses pieds étaient gonflés. On dit, toi à qui Allah a pardonné tout, comment dire, pourquoi tu donnes autant de mal? Il dit, ce que tu ne veux pas que tu sois un serviteur très reconnaissant. Donc la prière et toutes les adorations doivent être pour nous. Alhamdulillah, bientôt on aura une adoration le Ramadan. Ça va faire mal, mais il faudrait que ce soit un plaisir. Si on savait ce qu'il y avait dans le Ramadan, on aurait aimé, dit certains, que toute l'année soit Ramadan. Nous, on préfère éviter jeudi, lundi et jeudi, même pour ceux qui jeûnent. Ah, c'est mardi qui vient faire ça, parce que lundi, je suis out. Jeudi, pareil. Donc, toi, il te reste combien de jours? Mardi, t'es. Donc, ta semaine, c'est 5 jours. Naam. Quelles sont les clés de la sincérité? L'imam al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, aurait dit, ne demande pas à un bègue de t'enseigner l'éloquence. C'est le secret, c'est entre Allah et toi. Allah t'a donné la foi, demande-lui la sincérité. Et le professeur lui demandait, al-ikhlas fil qawl wal amal, la sincérité dans la parole et dans les actes. Demande à Allah, c'est lui qui donne tout, donc je suis rassuré. On ne va pas l'acheter au marché, ni dans les livres, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Simplement, si le fait que tu sois là aujourd'hui, Allah, c'est Allah qui t'a amené là, et que tu vois l'importance de la sincérité, il se peut que ce soit l'occasion pour reformer et revenir vers Allah déjà repentant pour ce qu'on a pu faire non sincère et lui demander la sincérité. Tout est entre les mains d'Allah. Deuxième question. Quelqu'un qui prie 5 fois par jour à la mosquée, qui rentre et qui bat sa femme, il n'a pas à le faire, le prophète n'a jamais levé la main, ni sur un esclave, ni sur une femme. C'est que Allah dit, inna salata tanha ani fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et de turpitude. Car tu n'as pas trouvé mieux que de battre ta femme, mieux vaut t'inscrire dans un club de boxe. Et on va te rembourser. Là. Ta femme va se plaindre. L'animal va se plaindre. L'animal chargé va se plaindre au jour du jugement dernier. Et ta femme est bien mieux que ça. Comment tu vas, comme je le dis aux frères, quand ils viennent avec les problèmes de couple, tout le monde a des problèmes. Comment quelqu'un qui s'est donné à toi, tu vas la considérer comme pire qu'un animal et que tu vas battre. Un animal, tu ne dois déjà pas le battre. Et parce que tu vois sa faiblesse physique, et tu vas te défouler. Tu vas te défouler. Et comme le disent les sociologues ou les psychologues, pourquoi on bat? C'est parce qu'on est à court d'arguments. C'est parce qu'on a court d'arguments. J'essaie de te convaincre, tu ne comprends pas. Je te convainc, tu ne comprends pas. Eh bien, je vais te faire comprendre. Mais c'est que tu n'as pas d'argument, c'est tout. Avoue que tu n'as pas d'argument. Mais si tu n'as pas d'argument, arrête. C'est tout. Comment tu vas battre quelqu'un parce que la personne ne comprend pas ce que tu dis? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Oui, elle a bien entendu. Et après? Si Allah t'avait battu ou t'a mis en esclavage chez un idiot qui ne fait que te battre et mettre des chaînes, est-ce que ça t'aurait plu? Non. Et donc comment se fait-il que tu vas la yomina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. S'il n'aime pas pour sa femme, s'il n'aime pas pour sa soeur, s'il n'aime pas pour son fils, pour sa fille, pour son frère. Non, ce n'est pas celui-là qu'Allah le guide, il a fait beaucoup de gym. La prière doit l'empêcher de faire des choses blâmables et de turpitude. Les meilleurs, comme l'a dit le prophète sallam, ce ne sont pas les meilleurs d'entre nous, ceux dont les femmes viennent se plaindre chez moi. Ils sont venus se plaindre, les femmes sont venues se plaindre chez les femmes du prophète sallam. Et il a fait un discours. Il dit, comment se fait-il que les gens battent leurs femmes et ensuite le soir vont demander leur faveur? Ils ne sont pas les meilleurs, les gens dont les femmes viennent se plaindre à la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, t'as pas d'argument. Et si tu penses suivre la sunna, en tout cas, le meilleur des hommes, le prophète n'a jamais levé la main sur une femme. Commence par ça. Wallahu ala wa alam. Pour une personne sans abri qui demande de l'argent pour manger, sachant qu'il n'est pas musulman et qu'il peut acheter autre chose d'illicite avec mon argent. On disait avec les jeunes ce matin, s'il a besoin de quelque chose, le mieux, s'il est avec un chien et assis avec une bouteille de vin, tu lui amènes de quoi manger. Et souvent, il le laisse, il s'en va, ou il le jette. Tu ne lui donnes pas de l'argent parce qu'il risque d'aller acheter du vin avec. Le chien, c'est juste pour avoir ta compassion, pour que tu aies pitié du chien, puisque les gens, malheureusement, ont plus pitié du chien que les gens. Si c'est quelqu'un comme ça, que tu vois qui te demande de quoi manger, si ce n'est pas sa profession, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les... Quelqu'un que tu rencontres qui te dit « je n'ai pas de quoi manger », tu peux l'aider. Même s'il le met ailleurs, Allah le sait. Ça encore, c'est l'intention. On revient dessus, quelqu'un est sorti. Il voulait faire du bien pour Allah, il est sorti le soir. Il s'est caché, bien sûr, et c'est encore mieux. Ils font partie de cette catégorie qui seront sous l'ombre, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Celui dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Donc si tu veux donner, donne-le. Et certains, les meilleurs d'entre nous, ont dit que quand ils donnent, ils donnaient la main ouverte. Parce que le prophète a dit, la main qui est au-dessus est mieux que la main qui est en dessous. Et ils mettaient leur main en dessous. Par pudeur. Parce que c'est Allah qui t'a permis d'aider quelqu'un. S'il avait voulu, tu serais à sa place. Tu ne vas pas l'humilier. Allez, tiens. Je me rappelle, on faisait les atikaf à Ampalo il y a une vingtaine d'années ou plus. Il y a une qui vient là pour Zakat al-Fitr. Elle vient taper tant, un jour. Ah, tiens, c'est la Zakat al-Fitr. Ah, tu as de la chance aujourd'hui. Hein. Parce que voilà, moi je suis dans Zakat al-Fitr. Heureusement que voilà, tu as bien fait d'être là. Quoi. Je viens te donner la Zakat al-Fitr. Alhamdulillah, Allah sait où va la Zakat al-Fitr. Et c'est yani, ce que tu as donné. Voilà, donc le fait de donner, il faut que ce ne soit pas quelqu'un professionnel, il ne faut pas encourager les gens à désobéir. Celui qui tend la main, qui n'est pas dans la nécessité, c'est des braises de feu qu'il a. Et ceux qui sont dans les carrefours et qui vivent de ça, c'est toujours le même. Quand tu leur donnes à manger, et les frères le savent, en passant, en quittant la mosquée, ils ramassent ce qu'on leur donne à manger parce qu'ils le laissent, ils s'en vont, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que l'argent. C'est certainement pour aller pour pas acheter de l'argent. Moi, je me rappelle quand j'étais à Ampalo et il y avait au rond-point, il y avait quelqu'un. Après, j'ai été à Leclerc et il était en BMW. Moi, j'étais peut-être en Espace. Il était en BMW. J'ai rien contre la BMW. Hein. Mais il roule en BMW. Il passe sa journée avec son équipe, donc attendre la main au carrefour. Ils vivent de ça. Moi, je ne les encouragerai pas. Par contre, quelqu'un qui vient te voir, un voisin en particulier, le professeur, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas croyant. On dit qui donc? Il dit quelqu'un qui a un voisin qui dort alors qu'il n'a pas mangé ou il n'a pas de quoi vivre. Donc ça, il faut donner. Même si c'est un non-musulman, il faut demander s'ils vont bien. Si on peut les aider, il faut les aider. Ça, c'est une nécessité. Mais des gens qui vivent de ça, moi, je ne les encouragerai pas. Shaitan peut-il nous donner du waswas malgré qu'on fasse nos invocations de protection? Bien sûr qu'il peut nous donner du waswas. S'il suffisait qu'on fasse des invocations de, comme nous on le fait administrativement, ah oui, j'ai fait les invocations. Déjà, est-ce que dans les invocations, ma sœur, tu es meilleure que nous et que tu es vraiment sincère dans tes invocations? Avec la Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala a guéri qui l'a voulu, un non-musulman. Ayatul Kursi, Shaitan, Allah nous a appris au travers de Shaitan que ça te suffit comme protection. Mais est-ce que vraiment on croit à ce qu'on fait? Quand on invoque Allah, est-ce que le cœur est présent? Est-ce qu'on est sûr que c'est la meilleure des voies et qu'avec ça, Allah va nous protéger? Souvent on le fait et même parfois on est en train de dormir. Tu te réveilles parfois avec les deux mains ouvertes, tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Parce que tu n'as pas fini encore, et tu es parti. Voilà, si tu es vraiment sincère, ça te suffit. Et si Allah veut t'éprouver, ce sera certainement ton bien, mais ça arrive, en tout cas de ce que les gens disent, après les cauchemars. Quand on doute de la sincérité de sa foi, suffit-il de dire les invocations pour sacher Shaitan de notre esprit? Non. Il ne suffit pas de dire les invocations. Il faut revenir vers Allah et lui demander la protection. Ce n'est pas la formule, la meilleure des formules est celle qui est enseignée par Allah. Mais c'est pas le plus important, c'est pas la formule, c'est la sincérité qui est là. Tu demandes protection à Allah parce que tu sais que c'est lui qui peut te protéger et qui contre toute chose. Et comme Ibn Qayyim le disait, que son maître lui a dit, vois-tu, par rapport au shaitan, il dit, vois-tu, si un chien te poursuit et il est en train de te harceler, tu te retournes chaque fois ou avec un bâton ou avec ce que tu veux, tu le chasses. Dès que tu tournes le dos, il te suit. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plutôt demander à son maître de s'occuper de son chien. Et donc, Shaitan, c'est pareil. Il ne dort pas. Il ne fait pas de sieste. Il est là toujours avec toi pour t'amener en enfer avec lui. Alors, tu vas demander, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas demander à Allah seul qui va lui dire, tu n'as pas de pouvoir sur mes serviteurs très sincères. C'est ce qu'Allah dit. Et sa parole est vraie. Donc, tu dois demander protection à Allah. Et si tu le fais, certainement, tu l'auras. Mais tu n'auras pas de mérite. Tu n'es pas un ange. Si Shaitan n'avait pas été créé, tu n'as pas de mérite. Si tu n'as pas susceptible, le professeur m'a dit, il a dit chacun d'entre vous à votre Shaitan, à son Shaitan. Il dit même toi, il dit même moi. Sinon que Allah l'a soumis. Il ne m'ordonne que du bien. Omar ibn Khattab, il avait un Shaitan. Hein? Et le professeur nous a dit, il marche sur le toit de Médine. Tellement de lui s'est dégagé la force, la foi. Shaitan ne pouvait même pas s'approcher de lui. Mais il a son chemin, il le suit. Parce qu'au cas où, il voit une faille, Omar a oublié Dieu, et il rentre à ce moment-là. Il n'est pas parfait. Donc ton shaitan, il va te suivre. C'est pas parce que tu n'as pas de doute maintenant, ah non, moi maintenant c'est fini, je suis arrivé à un stade, mashallah. Mon shaitan, il m'aide maintenant, il me réveille. J'ai déjà entendu ça. Ah oui, il te réveille, oui. Ibn Qayyim, quand la fasse miséricorde, il dit mieux vaut avoir raté la prière de Qiyam, pas du Fajr, la prière de Qiyam, et regretter plutôt que de te lever toute la nuit et être fier d'avoir prié la nuit. C'est un cadeau divin. C'est Allah qui t'a réveillé. C'est Allah qui t'a permis de le faire. Qui tu es? Ah non, moi c'est tous les soirs. Hein. Moi à partir de 2h du matin, j'entends parfois. Il vient poser une question sur la zakat. Quel est le rapport entre la zakat et Qiyam ul-Layl? Mais on trouve quand même le moyen, c'est ça la sincérité qu'Allah nous pardonne. Wallahi, si tu n'es pas sincère, Allah il va te dévoiler. La zakat, tu la donnes. Non, moi je la donne depuis. Et puis j'ai malgré tout, hein, je suis franc fatigué maintenant. Je t'ai rien demandé, moi. Je suis fatigué, ça fait 3 jours, je dors que 2 heures par. Moi, c'est passé. Et là, et la question? Parce que là, actuellement, je prie beaucoup, je demande beaucoup à Allah. Demande, c'est ton devoir. C'est toi qui as intérêt. Moi aussi. Avec la salade. Tout ça pourquoi? Pour dire aux gens que tu as fait ça. Et tu jures par Allah que tu l'as fait pour Allah. Et non. Tu sais très bien que c'est faux. Tu l'as pas fait pour Allah, tu l'as fait pour que les gens disent. Parce que tu vas, comme on le raconte ici le samedi, quelqu'un te voit qui te dit, tiens, du café. Non, tu sais pas que c'est jeudi. Et alors, tu sais que c'est jeudi et quoi d'autre? Parce que bien sûr, tous les jeudis je jeûne, quoi, en gros. Faut que tu comprennes, c'est pas seulement et prier pour la personne, barakallahu fik. Ou même dire je jeûne, ça veut dire que ce n'est qu'aujourd'hui. Non, tu sais pas que c'est jeudi, non? Donc si c'est jeudi, forcément, je fais partie de ceux qui jeûnent tous les jeudis, quoi. Et tu penses dire, et tu penses que c'est pour Allah. Non, il faut que quelqu'un me demande, quoi. Si personne te demande, Shaitan il va quand même t'amener à. Soit tu te laisses tomber. Ah, excuse-moi, je suis fatigué. Pourquoi? Et c'est Allah, il est parfait. Allah seul est parfait. Quel que soit, Wallahi, tu as beau cacher ce pourquoi tu fais la chose, Allah va te dévoiler. Et pourtant, comme le dit la sœur, qu'Allah la bénisse, le voile il est épais. Allah te met un voile, et ensuite un voile, et ensuite un voile. Et toi, tu es là en train d'enlever le voile. Et tu enlèves le voile jusqu'à ce que tu sois dévoilé. Parce que justement, Allah n'accepte pas ce qui est fait pour autre que lui. Qu'Allah nous pardonne. Tu as beau faire. La sincérité, c'est la base de tout. Tu as beau faire, et tu te jures à toi-même que tu es sincère, Allah sait que tu mens. La preuve, c'est qu'il va recruter les témoins contre toi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qu'Allah nous guide et nous pardonne surtout. Une personne qui est obligée de travailler, car elle est veuve, pour subvenir aux besoins de sa famille, alhamdulillah, et garde son voile, mais à la mixité, doit-elle chercher autre chose, même si elle a essayé, elle ne trouve pas. Elle doit chercher, c'est toi qui as conclu, autre chose. Les savants disent que si on est contraint, parce que la vie est supérieure à la religion, Allah a mis plutôt, est privilégié par prioritaire, ou en tout cas, et avant, quand on craint pour sa vie, il y a certaines choses qui sont permises. Même si on le fait, il ne faudrait pas arrêter de chercher à sortir du haram. Si on pense qu'on est obligé, et Allah seul sait que parfois on prend la facilité, on n'est pas obligé. Et pour les femmes en particulier, les veuves notamment, dans toutes les religions, et l'origine est d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes les religions qui sont en tout cas issues de la révélation, tout étant de l'islam, à l'origine en tout cas, la veuve et l'orphelin, on sait très bien que partout, ils sont particulièrement recommandés. C'est les personnes qui ont été éprouvées et on doit les aider. Maintenant, si on peut les aider, c'est avant tout et en ta famille qui doit t'aider. Et la femme, quand elle est divorcée, par exemple, elle est, quand elle est mariée, tous ses frais sont à la charge de son mari. Et quand elle est divorcée, elle revient dans sa famille et c'est son père, ses frères qui sont à la charge. Quand elle est veuve, c'est pareil. Elle ne doit pas se rabaisser ou être humiliée ou je ne sais quoi d'autre pour juste avoir de quoi manger. C'est Allah qui l'a décrété ainsi. C'est comme les enfants, on ne va pas les mettre parce qu'ils sont orphelins, ils n'ont pas le choix. Ils vont faire la manche à quel âge? Non. Ça, c'est un péché pour toute la société. Et donc, si toi, tu n'as personne, c'est toute la société qui est en cause. Si tu es obligé de faire ceci et cela, tu dois chercher, tu dois invoquer Allah. Allah te pardonnera les choses qu'il ne nous pardonnera pas à nous. Parce qu'on n'est pas dans la même situation. Mais tu ne vas pas te dire, Allah ghalib, ce qui est vrai. Donc, je ne cherche pas. Voilà, je n'ai pas le choix. Allah te dira que tu as le choix. Parce qu'il sait que tu as le choix. Et tu as préféré la facilité. Donc, si tu n'as pas le choix, tu n'as vraiment pas le choix, Allah va t'ouvrir des portes, continue à invoquer, continue à chercher, il va t'ouvrir des portes, inchallah. Ce qui n'a chargé personne au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Les prières sont-elles acceptées lorsque l'on les regroupe pour raison d'études ou de travail? Acceptées déjà, on l'a dit. C'est Allah seul qui sait, donc on ne peut pas dire qu'elles sont acceptées. Quand on les regroupe, c'est permis dans certaines circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a parfait la religion et lui a montré ce qu'il fallait faire. Il l'a déjà fait, mais on ne peut pas le faire. Il y a 5 prières par jour, à 5 moments déterminés et la sagesse, Allah seul a la parfaite sagesse. Si tu es contraint à regrouper des prières parce que tu es en voyage ou parce qu'exceptionnellement tu as besoin de le faire, tu peux le faire. Mais parce que je travaille ou parce que moi je prie 4 fois par jour ou 3 fois par jour, le Dhuhr al-Asr ensemble, le Maghrib al-Isha ensemble, tu as prié 3 fois par jour. Tu n'as pas prié 5 fois par jour. Dire que c'est accepté, Allah seul le sait. Et comme le dit Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne vois-tu pas que la femme indisposée, Allah lui dit de ne pas prier, de ne pas jeûner. Elle rend le jeûne, elle ne rend pas la prière. Parce que la prière est une obligation à des moments bien déterminés. Donc ceux d'entre nous, il y en a beaucoup qui disent rattraper la prière, il se peut qu'on ne rattrape rien du tout. Qu'Allah nous pardonne. C'est extrêmement important. C'est la rencontre d'Allah que tu refuses pour quelques euros. Ou pour quelques ceci. À quoi ça va te servir? Le monde entier ne représente pas la place du fouet de l'un d'entre vous, a dit le prophète sallam au paradis. Donc ce que tu vas gagner, ce que tu vas apprendre, si ce n'est pas dans l'obéissance à Allah, ça ne va pas te servir à grand chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études. Simplement, mets les choses à leur place, c'est tout. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter le bien là où il l'a mis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les voisins ont droit sur nous. Si c'est une question, certainement. Les voisins ont droit sur nous, je pense que c'est nous. Parce qu'on a honte ou autre, si on ne les évite. Si on les évite, est-ce que c'est mal? Et si c'est les voisins, on doit leur... Bonjour, ou passer le salam ou pas? Je sais, je n'ai pas compris la question. Dans tous les cas, c'est clair que les voisins ont le droit sur vous. Le prophète salam a dit, l'ange Gabriel, alayhi salam, m'a tellement recommandé le voisin que j'ai craint qu'Allah l'inscrive parmi les héritiers. Donc les voisins, certainement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la question, les voisins, ils ont au moins un droit. C'est le droit du voisinage. C'est le droit du voisinage. Donc on se doit de s'occuper de son voisin. Quelqu'un a dit, c'est un hadith, c'est en tout cas quelque chose qu'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est authentique ou pas? On est venu se plaindre d'une voisine qui jeûne, peut-être lundi, jeudi, et qui passe ses nuits à prier. Ses voisins se plaignent d'elle. Le prophète m'a dit, elle ira en enfer. Alors, je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est ni jeudi. Si ma mémoire est bonne, elle jeûnait tous les jours. Ce qui est interdit, mais bon. Imaginons qu'il jeûne beaucoup. Et qu'il prie toute la nuit. Et ses voisins se plaignent d'elle. Le prophète m'a dit, elle ira en enfer. Donc le voisin est important. C'est sûr que on est éprouvé quand on a des mauvais voisins comme aujourd'hui. On voit les gens partir du Mirail et d'ailleurs entre les nuits, les gens ils ont peur du Ramadan. Hein. C'est nous on a parfois on a de l'appréhension en disant mais comment on va faire, comment on va travailler, on va manger moins, on va faire les kilos. D'autres vont dire comment on va faire. Ils vont passer toute la nuit à nous empêcher de dormir, à faire la rodéo dans les quartiers. Subhanallah wa bihamdihi. Comment est-ce que tu veux que Allah accepte ton jeûne? Pour revenir à ta question, Ibn Qayyim disait, Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne voit pas que la femme qui est indisposée, Allah la dispense de la prière et du jeûne, et le jeûne, elle doit le rattraper et par la prière. Pas parce qu'elle n'est pas importante, c'est l'inverse. Parce que la prière est à faire à des moments bien déterminés. Elle a passé 4-5 jours à ne pas prier, elle ne va pas rattraper les 4-5 jours. Et pourtant, son jeûne de 4-5 jours, elle va les rattraper. Ce n'est pas les 4-5 jours de prière, elle peut le faire en une heure. Surtout nous. 5 fois 5 minutes, ça fait 25. Et encore, si on fait 5 minutes, c'est qu'on est concentré encore. On multiplie par 5, alhamdulillah, on s'est déjà reposé. On a fini. Non? Pourtant, le jeûne, ça fait 5 jours qu'elle doit rattraper. Donc, ce n'est pas une question de dureté. C'est que Allah n'accepte pas, comme on le fait dire à Abu Bakr qu'Allah l'agré, à Omar, sache que Allah a des ordres qu'il a imposés à ses serviteurs le jour dont il n'accepte pas le fait de les faire la nuit. Et des choses de la nuit dont il n'accepte pas le fait de le faire le jour. Le samedi, c'est-à-dire la prière. Allah, il se passe de tout. Il t'invite pour te pardonner, pour te bénir, pour t'élever en degré. Tu lui dis, non, moi j'ai des études à faire, moi. Quand j'aurai fini, je viendrai. J'ai du travail, moi. C'est pas toi qui me nourris. Hein. Tu le dis pas, mais quelque part, c'est dans l'âme. Comment je vais faire? Tu parles aux frères, tu parles aux sœurs. Mais comment je vais faire alors? Comment je vais nourrir ma famille? Et tu es venu avec... C'est toi qui t'es nourri depuis que tu es sorti. On va pas jusqu'au bout de notre logique. Ah oui, vous, votre islam, là, c'est trop difficile. C'est pas mon islam, premièrement. C'est la religion d'Allah. Et deuxièmement, la religion est facile. Elle est facile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Non, fadala. Tu as l'intention de faire une chose, tu n'en es pas capable. Tu vois quelqu'un qui peut le faire, en est-il en réalité?
Ou une bonne idée, supposons que tu es à la mosquée, tu penses à une bonne idée, mais quand j'aurai le temps, quand j'aurai le pouvoir, j'ai le temps.
Non, Draklaw, c'est une bonne question. On se retrouve avec. Souvent, on préfère qu'on le fasse soi-même. C'est on a une bonne idée, et on se dit, non, quand j'aurai le temps, je vais le faire. Alors qu'on n'a pas le temps, ni ceci et cela. Le suggérer, c'est, bien sûr, partager sans l'amoindrir la récompense de celui qui va le faire. Quand tu vois une bonne chose à faire, si tu peux le faire, tu le fais. Si tu ne peux pas le faire, tu le suggères. Ça, je pense que c'est bien pour la communauté, par exemple. Celui qui le fait, qu'Allah bénisse Omar. Les gens, il a vu ce qui est arrivé à Yamama, les courants. Ça, c'était les Qurans. C'est les gens qui aimaient Allah, qui le connaissaient, parce qu'ils connaissaient son livre. Ils l'ont compris, ils l'ont appris, et ils sont tombés comme des mouches à la bataille de Yamama contre Mousselim al-Kadhab. Il s'est dit, si on continue comme ça, on va diverger comme les gens qui sont avant nous. Ils vont diverger sur le livre d'Allah, il n'y aura plus personne qui connaît le Coran. Il va voir Abu Bakr, il y a Abu Bakr, tu vois comment les gens sont tombés, comme des mouches. Et si on mettait le Coran par écrit? Il n'a pas dit, ah non, moi je vais attendre, quand Abu Bakr va mourir, c'est peut-être moi qui vais devenir un calife, et à ce moment-là, je vais le faire. Non. On parle souvent de Othman et Kalal Agré, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ce soit Omar qui soit à l'origine de ça. Othman, il a sa récompense. Omar, il a, on espère, la même récompense. Sinon plus, il va avoir Abu Bakr qui lui dit, ah non, moi je ne vais pas le faire, vous connaissez l'histoire. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala inspire donc Abu Bakr qui va demander à Zayd, voilà ce jeune homme, il était assez âgé, mais c'est ce jeune homme qui me fait ceci. Non? Et finalement, alhamdulillah, Allah ouvre leur cœur et ils mettent par écrit le Coran. Ils ramassent tout ce que les gens savaient, et ils le rassemblent, ça fait le Coran. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala que Omar ait la même récompense. Il a gagné sans pour autant faire ce que Zayd a fait. Voilà. Donc quand tu as une bonne idée, il faut la partager. Et comme le disait quelqu'un d'autre, qu'Allah lui fasse miséricorde, ou en tout cas qu'Allah lui pardonne et le guide vers le droit chemin, ce qui appartient de bien aux musulmans, ça appartient à l'islam. Tout le bien des musulmans appartient à l'islam. Et tout son mal, ça et ses péchés, lui appartiennent en propre. Je pense que c'est vrai. Tes péchés, ça t'appartient. Mais le bien que tu as, c'est Allah qui te l'a donné pour que tu serves les autres. Voilà. Et donc, si vous avez des bonnes idées, alhamdoulilah, ça vient d'Allah. Si on a des idées sataniques, ça vient de Shaitan. Donc les bonnes idées, on doit les partager. On doit les partager et le bien qui en sortira, inchallah, Allah n'est pas oublié. Le bien qui en sortira, on en profitera, inchallah. Même si ce n'est pas nous qui l'avons réalisé. Barakallahu fik pour la question. Alayki salam, j'ai donné à manger un jour à un non-musulman lors du Ramadan. Est-ce que c'est autorisé? Donc c'est une question hors sujet, mais c'est quand même le sujet, c'est l'islam. Et ça nous arrivera bientôt, inchallah, pour ceux que Allah aura voulu, par miséricorde, faire vivre jusqu'au Ramadan prochain. C'est une chose que les chefs d'entreprise en particulier, même si elle est petite, hein, se posent la question, est-ce que je dois ouvrir, est-ce que je dois nourrir, est-ce que je dois vendre pendant le Ramadan? L'avis le plus fort, c'est que le Ramadan est imposé comme la prière, comme le reste, à tous les adultes, hommes et femmes, bien sûr. Les humains doivent jeûner, doivent prier, etc. Ceux qui refusent de reconnaître Allah comme Seigneur et refusent l'obligation du Ramadan, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas chargés. Ils doivent le faire. Même s'ils le font, ce ne sera pas accepté parce qu'ils n'ont pas reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Mais c'est une obligation pour eux. Donc, leur donner à manger, si ce n'est pas parce que la personne a une excuse, comme le musulman, comme par exemple la personne elle est malade, la personne elle est indisposée, la personne elle est en voyage, ça tu peux le faire. Tes parents non musulmans viennent par exemple chez toi, ils sont venus d'ailleurs, et tu peux leur donner à manger à boire. Parce qu'ils sont, en voyage. Tu viens d'ailleurs. Mais donner à manger à un non-musulman, l'avis que je connais, et qui est sur ces preuves-là, ce n'est pas permis. Un jour de Ramadan, sauf encore une fois, si la personne est malade. Si elle est malade, ou elle ne peut pas supporter le jeûne, c'est autre chose. Allah lui permet, à cause de l'âge, par exemple, elle ne peut pas gêner. Allah nous permet, nous, de ne pas gêner à cause de l'âge. Voilà. Et de donner à manger à quelqu'un, de donner à manger à un, de sortir la fidya, donc donner à manger à un pauvre. Donc, si c'est une personne âgée, tu dois lui donner à manger, il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelqu'un qui te demande de la nourrir ou qui vient chez toi, tu lui offres un café, ben avec le café, il a rarement calmé la faim. Hein. Et tu as fait quelque chose qui n'est pas autorisé. Demande pardon à Allah, si tu ne le savais pas, il te pardonnera. Si tu le savais, il te pardonnera quand même, si tu es sincère. Wallahu a'lam. Na. Barakallahu fik. Na. Donc, un chef d'entreprise qui travaille dans un fast-food, fast-food ou épicier, c'est différent effectivement. Si c'est pour vendre de la semoule, il va pas se mettre à manger de la semoule en plein Ramadan, il va aller moins le cuire. Non, si c'est un fast-food, c'est sûr qu'il faudrait attendre le coucher du soleil pour ouvrir, non, pour ouvrir, ou juste avant le coucher du soleil, le temps qu'il prenne la pizza, pour ne citer personne, donc le temps d'arriver pour déjeuner. Voilà. Mais à midi, non, il n'est pas en voyage et tu peux pas, tu n'as pas le droit de dire ben, où est ton ticket SNCF ou Air France. Qu'est-ce qui me prouve que tu es en voyage? Si tu fais ça, tu risques d'avoir quelques petits problèmes. Donc, effectivement, Barakallahu fik de le préciser, il ne s'agit pas de celui qui va vendre des habits ou des choses comme ça, il s'agit de celui qui donne à manger quelque chose dedans que l'on peut manger sur place ou emporter, que l'on peut manger directement. Non. Les gens qui viennent chercher du pain à midi pour le Ramadan. Non, mais si tu sais que la personne jeûne, ou tu penses qu'elle jeûne, et qu'elle va amener ça parce qu'ils font la queue là, pendant combien de temps, parce qu'il y a trop de personnes, et la queue commence, machin, alors on n'a jamais aussi mangé où est naturel. Elle est en train de prier. On n'a jamais mangé autant de musulmans que pendant le Ramadan, malheureusement. Et on gaspille. Et ça, bien sûr, c'est interdit le gaspillage. Les gaspilleurs sont les frères de Shaitan. Et donc, si tu sais que les gens prennent de l'avance parce qu'ils ne veulent pas faire la queue, ou ils vont le prendre pour le garder, pour le réchauffer à l'heure du machin, on n'est pas concerné. Chercher le pain chaud à midi.
Qu'est-ce qu'il doit faire?
Il vient chercher le pain chaud à midi. Si tu connais la personne et que tu sais qu'elle a une mère ou quelqu'un qui est malade, voilà. Si tu la connais. Si tu ne la connais pas, le mieux, tu fermes ton magasin et puis c'est tout. Comme ça, au moins, tu n'as pas de soucis à ce niveau et on va se cotiser, inchallah, pour les pertes et profits. Alors, mais il est clair qu'il vient chercher du pain chaud à midi, peut-être qu'il est malade. S'il vient avec son certificat, en plus, t'as pas de souci. Il paraît que j'ai dit que la sincérité est dans la parole et l'acte. Je parlais de la véracité, en fait. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'acceptation des œuvres. Donc on parle de l'ikhlas, on parle de sidq. Le sidq est continu. L'intention, la sincérité concerne le pourquoi je fais la chose. Le pourquoi. Mais la véracité est le vrai, comme son nom l'indique. C'est le vrai. Quand on dit sadaqa Allah, Allah a dit la vérité. Il ne dit que la vérité. Sadaqa Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est il a dit la vérité. Mais ici, ikhlas, c'est le fait de purifier, de ne le faire que pour Allah. Maintenant, la véracité, c'est à la fois l'intention, qui est vraie. Tu peux dire aux gens, non, j'ai l'intention de, on se ment souvent. Je veux faire ça alors que tu sais très bien que tu ne veux pas le faire. Tu veux te convaincre que tu veux le faire. Ça, c'est la véracité. Quand tu l'as fait pourquoi? Ça, c'est la sincérité, entre guillemets. Appelons à la fidélité, tout ce qu'on veut. Ce que je voulais dire, donc, par rapport à cette sincérité, c'est la véracité dans la parole et l'acte. Dans la parole, le prophète me disait, « Alaykum bisidq, fa inna sidqa yahdi ila albir, wa inna albir yahdi ila jannah » jusqu'à la fin du hadith. « Wa iyakum wal kadhib » Donc là, la sincérité de la parole, il a dit, « Je vous recommande, je vous ordonne la véracité. » On dit la véracité, c'est ça? Ou la véridicité? Bon, le sidq. Parce qu'elle conduit au bien, et le bien conduit au paradis. L'homme ne cesse pas d'être sincère ou véridique. Insister ou persister dans la véracité jusqu'à ce qu'il mérite l'épithète de véridique. Et je vous interdis, je vous mets en garde contre le mensonge. Je vous mets en garde contre le mensonge. Le mensonge conduit au fujour, c'est-à-dire à la perversité. Et la perversité conduit à l'enfer. L'homme ne cesse pas de mentir, de persister dans les mensonges jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Dieu parmi les menteurs. Non, c'est juste pour rigoler. Tu parles. C'est pas juste pour rigoler. Donc dans la parole, la véracité, c'est de ne pas dire le contraire de ce qui est vrai. Et on va trouver les trois raisons que l'imam al-Nawawi donne. Il y a trois cas où on peut mentir, mais tu es rarement dans ces cas. Hein? Tu es rarement dans ces cas. Et ne me posez pas la question quels sont les trois cas. Ne mentez pas, c'est tout. Voilà. Et quand tu as les actes, et comme le disent les savants, il n'y a pas que l'intention. On jure tous par Allah qu'on est sincère. Ou presque. On veut se persuader qu'on est sincère. Et si tu es sincère, tu le prouves. Allah dit, من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. Sur la 33, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques dans ce qu'ils ont promis à Allah. Et on connaît le hadith, je l'aime beaucoup. Et ça me rappelle qui je suis, c'est-à-dire pas grand-chose. Anas ibn Nadhr, qui était l'oncle de Anas ibn Malik, a dit que son oncle Anas ibn Nadhr, la tribu de Nadhr, a été voir le prophète sallam en lui disant, après Badr, on ne savait pas. Vous êtes sorti juste avec beaucoup de muhajirines pour aller récupérer une caravane et Allah vous a fait rencontrer des ennemis. Vous êtes battus. Mais si Allah nous montre une prochaine occasion, Allah verra et son messager verra notre sincérité. Et nous, on lui dit souvent, non, si j'étais là, si j'étais, t'en fais pas, tu seras, Charles. Allah va t'éprouver. On le pense toujours, heureusement que je n'étais pas là, mais si j'étais là, comme ça, tu te le dis, comme ça, Allah va m'inscrire. La bonne action. Non, tu n'auras pas la bonne action parce qu'Allah va t'éprouver. Ah, si j'étais là, j'aurais fait ça. Allah va te le donner. Et on verra bien ce que tu vas faire. Ah, si j'ai l'examen, je promets à Allah de. C'est là où je parle des actes. Mais l'examen, là, si j'ai ça, il me manque que ça. Si j'ai ça, ou si je me marie, c'est fini. La mosquée, alhamdoulilah, c'est moi qui viens d'ouvrir. Après, tu ne les vois plus, en général. Et c'est pas la faute de la femme, hein. Il a eu ce qu'il voulait, c'est terminé. Il a fait Qiyam al-Layl. Je lui ai demandé la main. Ses parents ne veulent pas. Mais si jamais je l'épouse, c'est terminé. Moi, je vais faire la khutba tous les vendredis. Tu parles. On ne le voit même pas. Et donc, Anas ibn Nadhr a dit ça au Prophète sallam. Et Allah a choisi. Il sait qui honorer. Allah, il sait qui honorer. Et un an après, il y a eu Uhud. Et toi qui dis non, si j'étais à Badr. Là, tu as Uhud, là. Et c'est pas Badr, mais c'est à côté. Et il part, et il revient pas. Et on le cherche parmi les morts, on le trouve pas. On le cherche parmi les vivants, on le trouve pas. On dit plus de 70 coups d'épée et de flèches, on a été sur lui quand sa sœur l'a reconnu par un défaut de dentition. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas reconnaître son corps. Et Allah a révélé ce verset, entre autres, Anas disait que c'est à propos de son oncle qu'Allah a révélé. Il a révélé, bien sûr, par rapport aux gens sincères. Il n'y a pas que lui. Parmi les croyants, il y a des gens qui sont sincères. Il y a des hommes, plutôt, qui ont été sincères vis-à-vis de ce qu'ils ont promis à Allah. Donc fais attention, la nuit là, quand tu promets, si je fais ça, si Allah tu me donnes ça, s'il te plaît, si tu me donnes ça, je vais faire ça, fais attention. Parce qu'après il va te le donner, parce qu'il est riche.
Oui, mais quand même c'est comme un ultimatum.
Non mais ce n'est pas à faire, le serment c'est pas à faire, mais le prophète m'a dit, le serment permet au bakhil, à l'avare, de dépenser. Eh oui, il n'est pas à faire, c'est, absolument, on ne rentre pas. C'est pas un marché que tu fais avec Allah.
Oui.
C'est si tu me donnes ça, je te donne ça. Et qui tu es toi? Ce que je te donne, c'est moi qui le donne de toute façon. Si tu me donnes ça, je te ferai ça. Donc si je te donne pas, alors qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Si je te donne pas, alors qu'est-ce que tu fais? Donc c'est, non mais c'est incroyable, l'homme il est comme ça. Hein. C'est si comme ça, si je donne ça à Allah, il va me donner. Subhanallah wa bihamdihi. Allah est bien élevé au-dessus de ce que les gens ne peuvent penser de lui. Et mais si tu le fais, un pauvre, on est tous pauvres, qui a un peu d'argent, il dit à Allah, si tu me donnes ça, je vais nourrir 10 pauvres. Allah va te le donner, comme ça tu vas nourrir 10 pauvres, c'est Allah qui les aura nourris. Si tu ne les as pas nourris, Allah quand même te nourrit, il va les nourrir. Mais ça, après il s'est dit, oui, finalement est-ce que j'ai dit 10 pauvres ou j'ai dit à peu près 10 pauvres? Il va commencer à calculer. Et il va venir voir l'imam ou le faqih. Pour 10 pauvres, est-ce que c'est 3 euros ou est-ce que c'est 5 euros? On entend souvent ça. Ou c'est 7 euros? Mais bon, c'est, les Parisiens, ils exagèrent quand même. Hein? Avant, c'était 5 euros pendant combien de temps? Et maintenant, il dit c'est 7. C'est un avare. Allah lui prend de l'argent malgré lui. Mais sinon, on n'a pas. On n'a pas à dire à Allah, si tu me donnes ça, je te fais ça, mais qui tu es. Mais si tu le fais, tu es obligé de le faire. Tu es obligé, parce que ça fait partie des... Celui qui ne le fait pas, ça fait partie des 3 ou 4 caractéristiques de l'hypocrite. Quand il promet, il trahit sa promesse. Donc on n'a pas à faire ça, mais si on le fait, alhamdoulilah, on doit le rendre, je ne sais plus quelle était la question... J'ai pas fini encore nada, mais justement c'est ça. Quand tu promets à Allah, si tu me donnes ça, je fais ça, c'est dans l'acte. Et Shaitan, il ne lâche pas. Je vous assure, il ne lâche pas. Allah seul peut protéger contre. Quand tu vas le faire dans l'intention, on a tous des bonnes intentions. On ne doit pas douter de l'intention de quelqu'un qui appartient à Allah seul. Non, il n'est pas sincère. Dis, tu n'es pas sincère, ça tu peux le dire. Mais lui n'est pas sincère, tu n'as pas le droit. Et tu as l'intention de, tu sors, elle dit non mais il pleut. Non mais c'est, moi je suis en retard. Non mais actuellement sur la rocade il y a ceci et il y a cela. Tu ne sais même pas. Wallah, et tu sors de chez toi, tu arrives en retard, ça t'est compté comme si tu l'avais fait. Parce que rien ne t'a retardé si ce n'est ce qu'Allah a décrété. Non mais je t'ai dit non mais c'est pas la peine. Parce que tu as la bonne intention d'y aller. Non, tu n'es pas véridique. Si tu es véridique, tu aurais pris les moyens d'y aller, comme Allah le dit dans le Coran. Mais en plus de ça, il y a donc l'intention qui doit être sincère. Et pour que l'acte arrive, il faut la résolution. C'est qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, je me suis promis ça. Allah, j'ai promis ça à Allah. C'est mon devoir vis-à-vis d'Allah. Je vais le faire. Et là, malgré les obstacles, Allah va te le faire et le contourner. La détermination, comme disent les jeunes, il faut être déter. La première fois, ça n'a pas marché, je vais essayer la deuxième fois. Parce que Allah n'a pas décrété la première fois, peut-être qu'il va décréter la deuxième fois. Non, j'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois, non, tu sais les gens. Hein. Si c'est toi, oui. Tu peux parler de toi, tu peux pas parler des gens. C'est Allah qui peut parler des gens. Il faut être déter. Dans le bien, dans l'islam, il faut être déter. Je vais le faire quoi qu'il arrive, Inch'Allah. Et Allah va te le faciliter. Ce sera la 15e fois. Ce sera la 15e fois peut-être. Mais tu vas y arriver et Allah va te récompenser et annuler les 15 fois. Donc ça, c'est pour finir ce que tu voulais faire parvenir aux gens. Donc la détermination, la sincérité dans le sens de véracité dans l'axe. Tu peux jurer à qui tu veux que tu es sincère. Allah sait que c'est pas vrai. Ça, c'est la véracité. Ça, c'est pas la sincérité. Ça, c'est la véracité. Ka'b ibn Malik. Vous connaissez l'histoire. Si tu as envie de pleurer, je t'assure, prends l'histoire et lis-la. C'est des pages et des pages dans Riyad Salihin, dans le repentir. C'est tout simplement magnifique. Et ça rappelle la question du frère par rapport à la sincérité, la détermination et le reste. L'intention, c'était d'y aller à Tabouk. Et Shaitan a pris le dessus sur le moment, même s'il est croyant. Et il dit, Wallahi, et c'est ça la sincérité. Allah a révélé à propos de Ka'b et d'autres, il a dit, Amanu, itakullah wa kunu, nu'as-sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les sincères. Soyez parmi les sincères. Et il est resté, alors qu'il avait les moyens d'y aller. Il ne s'est pas menti. Il dit, je n'ai jamais été aussi riche. Il a dit, non, mais je n'avais pas d'argent, je n'avais pas assez. Non, lui, il le connaît. Il faut être sincère vis-à-vis de toi-même. Sinon, tu ne seras jamais sincère vis-à-vis d'Allah. Il dit, Wallahi, il dit au Prophète sallam, quand il est resté, les gens sont partis, et Allah est généreux, et il est miséricordieux, et il est sage, et il est juste surtout. Les gens ont été, ceux qui ont été sincères, qui ont été jusqu'à Tabouk, à des centaines de kilomètres, ils sont revenus, ils n'ont même pas rencontré l'ennemi. Wallahi, Allah, il est beau. Tu peux tromper tout le monde. Allah, tu ne sauras pas le tromper. Il dit à Ibrahim, tu sacrifies ton fils, le seul que tu as. Au moment où il va le sacrifier, Allah accepte sa sadaqa. Les gens qui vont à Tabouk, il faisait chaud. Ici à Toulouse, dans la vallée, il fait 40 degrés, vous dites c'est insupportable. Il faisait chaud. Et ceux qui sont passés en Arabie, ils voient ce que c'est. Le désert, ce n'est même pas le Sahara. C'est des pierres. Qui taille. Et il n'avait pas de Nike hein, pour marcher. Je peux vous assurer. Et malgré tout ça, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait un chameau pour 18 personnes. Un chameau pour 18. C'est pas chacun avec son car climatisé là. Entre Médine et Makkah. Son car climatisé, c'était pas ça. Wallahi, c'était pas ça. Il y a 17 marchés à pied et il y a un qui montait sur le chameau. Et ensuite il descend et il doit attendre 17 qui ont pris chacun leur tour pour remonter sur le chameau. Et comment tu veux être pareil qu'eux, au même degré qu'eux au paradis? Ah, il faut les aimer, c'est tout. Alhamdulillah, Allah donne la sincérité. C'est pas possible. Wallah, ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils. C'est pas possible. Celui qui est sincère, celui qui n'est pas sincère, c'est pas pareil. Ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Et ils vont, Allah dit finalement, j'ai accepté de vous, l'ennemi a eu peur, j'ai mis la peur, la frayeur dans son cœur, l'ennemi n'est même pas venu. Et il retourne. Et le prophète sallam appelle Ka'b. Plutôt, il vient, il va à la mosquée, avant d'aller chez lui. Et Ka'b vient, et le prophète, quand il priait, après il a été voir le prophète sallam, il dit, et Ka'b, quelles sont tes excuses? Les hypocrites sont venus, Wallahi, ma femme était malade, mon machin était ceci, mon cela. Il dit qu'Allah vous pardonne. Je laisse ça à Allah. Si c'est vrai, Allah vous pardonne. Si c'est pas vrai, vous allez voir avec Allah. Allah a révélé des versets sur eux qu'on récite encore aujourd'hui. Ils sont dans l'enfer, wa'azubillah. Ceux qui ont menti au prophète, etc., etc. Et Ka'b, il vient, le prophète lui dit, et toi, Ka'b, quelles sont tes excuses? Il dit, Wallahi, je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Je suis très éloquent, tu le sais, parmi les Arabes, parmi les gens de Médine. Si j'avais voulu raconter une histoire, je l'aurais raconté et tu n'aurais vu que du feu, entre guillemets, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Tu n'aurais pas compris. Mais je sais que si je te mens, je ne peux pas mentir à Allah. Donc il ne faut pas se mentir soi-même. Ah non, j'ai des excuses, non, Allah sait que... Allah est un menteur. Je parle de moi-même, je ne parle pas de vous. Ne te mens pas toi-même déjà. Si tu ne te mens pas, tu ne vas pas mentir à Allah. Mais si tu te mens à toi-même, tu ne peux pas être sincère. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ah, j'ai des excuses. La femme était malade. L'enfant était machin. Et puis, il y avait ceci. Mais c'est faux. Tu sais très bien que si on t'avait convoqué, tu serais parti. Tu sais très bien que si tu avais besoin de quelque chose, tu serais parti. Tu le sais très bien. Mais parce que tu penses que tu te fais l'avocat du diable. Ton diable te pousse, tu te fais son avocat. Allah sait que tu n'es pas sincère. Il dit, et toi, Ka'b? Il dit, Wallah, je suis éloquent. Mais tu sais. Mais Allah sait que si tu avais menti, on ne peut pas mentir à Allah. À moi, je n'avais pas d'excuses. Et tiens, les chiatines, ins, les gens s'attribuent. Les gens, ils ont demandé pardon, ils ont demandé après. Le prophète a prié Allah, il leur a pardonné. Toi aussi, tu aurais pu dire, tu aurais pu trouver des prétextes, tu aurais pu. Il dit, j'ai failli retourner en disant, moi aussi, j'ai des excuses. Même quand tu es sincère, tu as ton shaitan qui vient. Ouais, mais finalement, non, tu as quand même une excuse, hein, tu sais, il y a un changement d'heure, tu parles. Tu le savais, mais tu étais au rendez-vous, le changement d'heure. Pour l'islam, tu as le changement d'heure. Mais pour le reste, tu l'as pas. Tu vas chercher. Tu vas dire, non, tu n'as pas d'excuses. Je vais même poser ceci, cela. Il va dire, non, tu as des excuses. D'ailleurs, c'est toi qui... voilà. Ça t'arrive souvent. C'est rare quand même que tu rates la prière en groupe. Hein. Donc, bon, une fois en passant, c'est ton ennemi. Il y a quelqu'un, il est resté dans son jardin. C'était pas câble. Et il est resté dans son jardin jusqu'à ce que les gens, ils ont fait la asr ensemble. Quand il est revenu, il a raté la prière, il a donné son jardin à Allah. Il dit que c'est son jardin qui l'a perturbé. Il est resté en train dans son jardin, à admirer ça jusqu'à ce qu'il a raté la prière en groupe. Bon, ça, c'est pas nous. Hein. Et Kaaba, Allah l'a mis en quarantaine, 40 plus 10 jours. Et ensuite, personne ne lui parlait. Et Allah a révélé à son prophète qu'il se sépare de leur femme, lui et deux autres. Est-ce qu'on les divorce? Il dit, c'est pas ce qui m'a été dit. Il m'a été simplement dit de te séparer de ta femme. Là, le même message a été envoyé à Hilal et à Murara. Et en plus de ça, Wallahi, Allah sait où mettre son épreuve. Le roi de Gatafan qui dit, quelqu'un vient au marché de Médine. Où est Kaab? On dit, il est là-bas. Et voilà, on te donne une lettre, tu lis. Le roi, il lui dit, un roi chrétien qui lui dit, j'ai appris que ton compagnon t'a abandonné, c'est-à-dire Mohammed Sassam t'a abandonné. Viens chez nous, on va t'honorer. Il a dit, il ne manquerait plus que ça. C'est qu'il abandonne ta religion, viens chez nous. Non seulement personne ne te parle, mais en plus maintenant, qu'est-ce qu'on te propose? De sortir de l'islam. Et c'est ce qui arrive parfois. Hein. Tu as des épreuves, épreuves sur épreuves. Il ne manquerait plus que ça. Sors de l'islam si tu veux. Si ça va t'apporter quelque chose. Que le malheur, on a au début. Il a dit, il ne manquerait plus que ça. C'est-à-dire qu'Allah l'aimait. Malgré son épreuve, hey, personne ne me parle là-bas, on me demande de commettre un chef. Et je vais là-bas. Bien sûr, on va m'honorer. Mais tu vas honorer pour combien de temps? Celui qui Allah honore, personne ne saura le rabaisser. Celui qui rabaisse, personne ne saura l'élever. Allah lui a donné cette foi. Plutôt que personne ne lui parle, qu'il reste là, en terrain inconnu, comme Allah le décrit si joliment dans la sourate Tawbah, Médine, autant que Médine était vaste, ça leur a pendu étroit. Il ne reconnaît même plus Médine. Personne ne lui parle. Et après, Allah a révélé ce qu'il a révélé, qu'il leur a pardonné. Et alhamdulillah, les compagnons du prophète avaient un cœur. Il y avait quelqu'un qui, entre autres, dès que le matin, à la prière du matin du Fajr, il s'est retiré, lui, il venait à la prière. J'étais pas comme l'autre, hein. La personne ne me parle, bon, mais je reste chez moi. Et reste chez toi, si tu veux. Il venait à la prière, comme il disait, quand je priais, le prophète me regardait, quand j'ai fini la prière, il détournait son regard. Même pas pour croiser le regard. Comment Allah l'a purifié, ou le purifie. Il a fait la prière du matin avec les musulmans, il est parti. Et après ça, Allah a révélé ces versets de la sourate Tawbah, comme quoi il les a pardonnés. Et qu'Allah nous pardonne. Eux, ils sont assurés qu'Allah les a pardonnés, c'est pas nous. Et Allah les a pardonnés quand ces versets ont été révélés, parce qu'on l'a récité, il y a un qui a pris son cheval pour aller lui dire. Nous, on va arriver, on va négocier d'abord. Le cheval, le prix du cheval, ce qu'il a mangé. J'ai fait toute cette distance, si tu l'as fait pour Allah, parce que c'est comme toi-même. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on t'annonce la bonne nouvelle? Et donc, va annoncer la bonne nouvelle à ton frère. Et il y a un qui a été encore plus rapide et qui est monté sur le toit. Ya Kaab, sois heureux, Allah t'a pardonné. Et Allah a multiplié la voix et un haut-parleur. Finalement, il a appris alors qu'il était couché chez lui. Et il est venu. Il a demandé au prophète, est-ce que c'est toi qui m'as pardonné? Il dit non, c'est Allah. Avec la sincérité, il n'y a pas le malheur. Ça peut te retarder le bonheur, mais tu seras forcément heureux. tu seras forcément heureux. L'épreuve, si elle ne voulait pas passer, elle n'allait pas venir, me dirait ma mère. Tout ce qui ne veut pas passer n'a pas à venir. Il n'y a pas d'épreuve qui ne passe pas. Il n'y a que Allah qui subsiste. Il n'y a pas d'épreuve. Quelle que soit la dureté, quelle que soit la difficulté, quel que soit le temps, demande à Ayoub ce qui lui est arrivé pendant combien de temps. Et pourtant, Allah a été satisfait de lui. Donc ça va forcément passer. Si tu me laisses sur ça, j'en ai pour. Mashallah. Si tu as envie de pleurer, mon frère, ma soeur, lève-toi et lis. Et en lis l'histoire de Kaab. Chapitre 2, la Tawba, le repentir, et tu verras dans Riyad Salihin et tu verras. Peut-on faire la salutation sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam béni après chaque prière? Bien sûr. Si tu peux le faire encore plus, fais-le en plus. Dans ta prière, déjà, tu vas le faire. Ça t'est enfin une obligation. La salat ala nabi, salat ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et chaque fois que tu prieras sur lui, Allah priera sur toi, te bénira 10 fois plus que le nombre que tu as accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah te l'ordonne, bien sûr après chaque prière et en dehors de la prière. On va vous laisser vous reposer, inshallah. C'est au sujet de la Nouraniya et sur le fait que l'on ne puisse pas écouter le prof sur Internet car, soi-disant, le fils ou petit-fils l'a interdit. Qu'en est-il réellement? Je ne travaille pas avec la méthode Nouraniya. J'ai entendu ce que tu as entendu. Ça, tu parles en général du droit d'auteur. Les droits d'auteur, c'est respecté en islam, dans l'avis que je connais. Ils ont travaillé, ils ont investi de l'argent, de leur temps, et ils le vendent. S'ils l'ont fait pour Allah, Allah le récompensera. S'ils l'ont fait et ils ont dit, on donne ça pour Allah, que les gens apprennent, tout ce qu'ils vont apprendre, ça va compter pour nous, ça va compter pour eux, alhamdoulilah. Mais ils ont dit qu'on a dépensé et on veut être récompensé. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser ce qui ne t'appartient pas. S'ils le mettent, il y a beaucoup de livres, de plus en plus d'ailleurs, tu vas voir, interdits à la reproduction, etc. Ah, c'est pas normal, c'est la science, on doit la partager, mais on va la partager. Les gens, ils sortaient sur le dos de chameau pendant des mois et des mois pour aller apprendre les hadiths. Toi, tu es là sur Internet, tu cliques. Non, alhamdoulilah, si on te le laisse, c'est la personne qui gagne. Et si on te le laisse pas, si tu payes, ce sera fisabilillah. Allah va te le compter. Après, celui qui a dit que c'est son droit, hein, tu laisses son droit. Qu'Allah nous préserve de devoir à qui que ce soit si ce n'est lui. Le droit demain, tu vas le payer. Tu prends le droit de quelqu'un, c'est de l'injustice. Sauf si tu le donnes. Tu prends le droit de quelqu'un, que ce soit ta femme, ton mari, tout ce que tu veux, vous vous aimez ici, vous faites semblant, en tout cas, au jour du jugement dernier, il va te le prendre. Hein? Il dit, ça c'est mon texte, tu n'as pas le droit de le reproduire, tu le reproduis, Allah le sait. Ah non, non, ça c'est, tu trouves une fatwa. Ça, on est très fort pour ça. Tu trouves une fatwa, tu vas le payer. Et ce jour-là, ce sera l'homme au saut troué. Et on est tous quelque part comme ça. Tu fais des bonnes actions, j'ai appris la Nouraniya, c'est pour apprendre le Coran, mais Allah est pur, il accepte ce qui est pur. Donc il se peut qu'une partie de ce que tu as appris, Allah le prend et le donne à l'homme. Parce que tu as pris son droit. Et ce jour-là, tu ne seras pas content. Ta fatwa ne sera pas valable. Hein? Ce ne sera pas valable. Donc, craignons Allah et abandonnons même le doute. Celui qui dit que c'est son droit, on le laisse. En tout cas, ce n'est pas le nôtre. Et même si on nous prend notre droit, si on peut, on le laisse. On voit nos devoirs comme ce qui nous a été enseigné, le prophète, en particulier vis-à-vis des dirigeants en particulier. Vis-à-vis des dirigeants en particulier, il a dit, et si cela. Il dit, même si vous tapent sur le cou, c'est-à-dire même si vous tuent, donnez-leur leur droit et réclamez votre droit à Allah. Allah ne va pas te demander quels sont tes droits. Il va te les donner. Par contre, tes devoirs, ce sont les droits des autres. Et là, tu vas le payer. Là, tu vas le payer. Et tu dis, moi, je suis endetté. Ça ne changera pas. Endetté, effectivement, parce que si tu n'as pas de bonnes actions, Allah va prendre leur péché, il va te mettre dessus. Et là, tu seras vraiment endetté. L'homme endetté, c'est bien celui-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux. On va certainement... Ouais, il reste 5 minutes, on va prendre la dernière question si vous voulez bien. Est-ce qu'une femme a le droit d'aider un non-musulman dans la rue alors que ce dernier est en difficulté, pousser son fauteuil roulant sur une pente? Il faut craindre Allah. Si la personne a besoin d'être aidée et que sa vie en dépend ou sa santé, tu peux l'aider. Mais ne lui dis pas en plus que ton fauteuil roulant est joli. Moi, je vais être gentil. Voilà. Donc, ferme la porte au shaitan. Fais ce qui t'a été demandé pour Allah. Mais Allah est pur, on accepte ce qui est pur. Voilà. Donc, tu rencontres quelqu'un, musulman ou non musulman, un petit sourire, oui, parce que le prophète sallam a dit, sourire à son frère est une sadaqa. Non. C'est une sadaqa à condition qu'il n'y ait pas de fitna derrière. Voilà. Allez, kassalam, frère. Donc, alhamdoulilah, tu peux le faire, mais reste dans les limites. Reste dans les limites et ferme les portes à la fitna. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, qu'il le fasse. Sinon, si tu es le seul à pouvoir l'aider, tu dois l'aider même. Tu dois l'aider. Et Moussa, alayhi salatu salam, il a bien aidé les femmes de Madian. Et ensuite, quand on l'a appelé pour le récompenser, certains Mufassirun, ils ont dit qu'il s'est mis devant pour éviter d'être derrière les femmes. Mais la femme est venue lui parler. Et c'est permis. Mais à condition qu'on reste dans les limites et que le cœur, on essaye de le surveiller au maximum, d'éviter ce qu'on peut dériver parce que Satan court dans les veines du fils d'Adam, comme le sang. Donc au début, tu veux faire pour Allah et à la fin, ça finit ailleurs. Et ça finit mal. Et tu le pousses, et c'est pas parce qu'il est handicapé, il n'est pas handicapé du tout. Hein. Tu commences à le pousser, il va te dire, ah vous, vous êtes gentil, vous. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Là, tu laisses le fauteuil partir. On va arrêter la charla. Barakallahu fikum pour votre sabre. Donc après la prière, charla, dans 3 minutes, l'adhan, après la prière, ceux qui veulent rester avec nous, resteront charla pour partager un peu de ce que vous avez amené. Qu'Allah bénisse en tout cas votre temps et qu'il nous compte parmi yani, ceux qui profitent de ce qu'il nous a enseigné, même si ce n'est pas yani, beaucoup. Et Allah seul est savant. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.